11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un très bel été. Je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi sur Europe 1 pour une nouvelle saison de Ça fait du bien, tous les jours de 11h à midi. Avec moi ce matin, il ne comprend pas pourquoi on fait tout un foin du G7 à Biarritz. Ça fait 10 ans qu'il a un G20 en bas de chez lui, où les salades ont l'air beaucoup plus fraîches. Le pragmatique Jean-Philippe Bizzini.
Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour. On est de retour.
Il commence vraiment à s'inquiéter pour la forêt amazonienne, parce que ça fait 3 jours qu'il attend son colis Amazon. Oui. Le concerné Ben H est avec nous.
Bonjour à tous, bonjour à France, ravi de vous retrouver.
On ne le présente plus ici, il se sent presque aussi à l'aise qu'un Iranien au G7. Le Niçois exilé à Paris, malgré lui, Laurent Barra.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Et celle qui nous revient reposée, dorée à souhait, prête à nous faire passer une année de rire, de bonne humeur et même de fitness. Oui, elle a changé. Celle qui a réussi à devenir plus belle en vrai que sur Instagram, la seule et unique, Anne Romanoff. Ouais.
Pour cette première émission de la saison, on va vous faire gagner un séjour pour 2 personnes à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, ainsi qu'un lot de cartables et de trousses pour la rentrée scolaire. Et tout à l'heure, nous recevrons l'ancien joueur de rugby et entraîneur Daniel Herrero pour son dictionnaire amoureux de l'Ovalie qui vient de paraître aux éditions Plomb. Jean-Philippe Bizzini s'est essayé au rugby, il nous racontera.
Pourquoi vous rigolez?
11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Hier, un hypermarché sans caissier a ouvert près d'Angers. Avant, les supermarchés en faisaient des caisses pour leurs clients. Maintenant, ce sont les clients qui font la caisse. Alors moi, hier, modestement, j'ai fait mes courses dans un supermarché de quartier à Paris. Il n'y avait pas de caissier non plus. Hein, Franprix, Monoprix, Casino, je ne veux pas dénoncer, ce n'est pas mon genre. C'était Franprix. Est-ce que vous avez déjà essayé, cher public, de vous servir d'une caisse automatique? Je peux vous garantir un truc. Après avoir essayé de vous servir d'une caisse automatique, plus jamais vous ne direz « Oh, bah, caissière, faut pas être très malin pour faire ça. » Eh ben si, en fait, c'est très compliqué d'être caissière. Les clients comptent sur toi pour aller vite, mais ils te calculent pas, ils font la gueule quand t'annonces le total, ils s'étonnent toujours que les sacs soient payés en 3 ans après. En fait, une caisse automatique, ça n'a rien à voir. En fait, une caisse automatique, c'est comme une caisse normale, sauf qu'elle a l'odeur de la courbe du chômage et qu'il faut avoir fait Polytechnique pour s'en servir. Parce que pourtant, a priori, c'est simple. Tu scannes le code-barre de ton produit et tu entends ce son mélodieux. Sauf que parfois, tu essayes de scanner, tu n'entends rien. Tu repositionnes ton blanc de poulet bio, toujours rien. Et là, la caisse automatique t'annonce « Produit introuvable, veuillez contacter l'hôte de caisse ». L'hôte. Comme un hôtesse au masculin. L'hôte de caisse. Sauf que l'hôte de caisse, il n'est pas là. Non, parce que pour baisser le coût salarial de l'entreprise, il est chez lui en train de regarder Netflix. Et là, tu dis au vigile « Monsieur, s'il vous plaît, ma caisse, elle est bloquée ». Le vigile, il prend un air exaspéré. Genre, t'es teubé de pas faire, de pas arriver à faire marcher une caisse automatique. Là, tu lui fais un charmant sourire, tes yeux de chaton.
Ah oui, on fait bien le chaton. Oh, oui.
Ça, fallait voir ça.
Faut leur mettre le béton, le chaton. Là.
Et là, il consent à rentrer un code mystérieux pour débloquer ta caisse automatique. En fait, si t'as 2-3 articles à scanner, la caisse automatique, c'est fantastique. Mais moi, hier, au Franprix, j'ai fait un plein du frigo pour la rentrée. Essentiellement, des fruits et des légumes, c'est ainsi que je maintiens
bien
cette
sûr,
ligne.
Oui, bien sûr.
Que les influenceuses du monde entier m'envient. Ah bah oui, sauf que les légumes, faut les peser. Et pour ça, il faut aller à la balance automatique. Il y en a une seule dans tout le magasin. Donc moi, hier, pendant que j'étais à la balance automatique, un mec a essayé de me voler ma place à la caisse automatique. Vous me connaissez. J'ai un tempérament sympathique, mais il ne faut pas me chercher. J'ai dit « Ma caisse !» Mais monsieur, vous avez pris ma caisse ! Tous les c'est vrai, non mais sérieusement, tous les produits que j'avais scannés laborieusement pendant 25 minutes avaient disparu. Et là, le mec, il me répond « Fanculo ». J'ai dit, pardon, vous avez dit quoi? J'ai demandé. C'est vrai, en plus, on ne dit pas Fanculo, on dit va Fanculo.
Oui, c'est important de le préciser. Hein.
Et là, un responsable est apparu et a dit, on se calme, monsieur, on va ouvrir une caisse manuelle. Et là, une vieille dame a dit, ah bah, vous voyez quand vous voulez. Hein, c'est pas comme s'il n'y avait pas 2 millions de chômeurs. Et là, le vigile a dit, bah, franchement, madame, nous, on préfère quand il y a des caissiers. Hein. Là, tout le monde, il nous engueule. Sérieux, on est vigile, on n'est pas assistant caisse automatique. Et là, une autre dame a dit, bah, c'est pas leur faute, hein, ils sont pour rien, eux, ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent et ils prennent pour tout le monde, c'est pas juste. Voilà, alors je sais pas vous, mais moi je pense que plutôt que de supprimer les caissières à la caisse, j'aurais préféré que les supermarchés suppriment la queue à la caisse.
Ah oui.
Parce que la caisse sans caissier, c'est la grande mode, le sang, hein. Sans sucre, sans matière grasse, sans caissier. En gros, on nous enlève tout ce qu'on aime bien. Avant, on était dans la quête du sens, maintenant on est dans la conquête du sang. Je vous laisse le temps de capter.
Ah oui, c'est vrai.
Excusez-moi de pratiquer un humour un peu élaboré.
C'est le premier jour.
Je suis encore en vacances, moi.
Caisse sans caissier, déjà qu'on a du pain sans gluten, des services d'urgence sans moyens, des salaires sans pouvoir d'achat, c'est quoi la prochaine étape ? Une voiture sans conducteur ? Une planète sans forêt ? Les caissières sont en train de disparaître et tout le monde s'en fout, mais nous, les clients, on a quand même le droit de dire qu'on préfère une caissière, même un peu maussade, à une caisse automatique sans âme dans un supermarché déshumanisé. Alors, messieurs les directeurs de Carrefour, Auchan, Monoprix, Franprix, Casino, rendez-nous les caissières, sinon on va aller faire nos courses sur Internet. Quitte à voir personne et parler à personne, autant rester derrière son écran.
Ouais. Anne Romanoff sur Europe 1.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Au G7, Emmanuel Macron a dénoncé les dérives de l'industrie textile. Et il s'y connaît en textile. Hein. Cette année, il a souvent été dans de beaux draps. Au G7, Emmanuel Macron a dénoncé les dérives de l'industrie textile. Ah, c'est vrai, il y en a marre. Hein. Moi, je suis à fond derrière Macron sur ce coup. Pour la peine, j'encourage tout le monde à finir cette émission à poil.
Allez-y, on vous attend. Commencez, madame, lancez le tempo, allez-y.
Les gens sont pas chauds.
La sculpture de Jeff Koons représente...
Koons.
Oui. Ah, moi, je dis Koons.
Non, Koons.
Koons. La sculpture de Jeff Koons...
Koons.
Koons, mais c'est quoi ce sculpteur ? La sculpture de l'autre, Jeff Koons, représentant des tulipes, arrive à Paris. Elle pèse 35 tonnes et c'est la ville de Paris qui va la payer. Jeff Koons est le seul. Quand il offre des fleurs, ça sent pas bon. La sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali, souhaite contrôler davantage l'allocation de rentrée afin qu'elle serve uniquement aux achats scolaires et périscolaires. Elle a raison, ouais, parce que c'est bien connu que l'allocation de rentrée, ça sert trop souvent à s'acheter des Ferrari.
La discographie complète de Jean-Jacques Goldman est disponible depuis vendredi sur les plateformes musicales comme Deezer ou Spotify. Hein, Goldman, ce chanteur très macronien, ça commence par « J'irai au bout de mes rêves » et ça finit par « Je marche seul ».
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Laurent Barra et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Une heure de détente avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi de rentrée sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini.
Ouais, on est là, de retour.
Laurent Barra, oui. Ben H.
Bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour, bien sûr. Ouais.
Vous avez passé un bon été, Jean-Philippe Vizini ?
On peut parler d'autre chose. Oh là là, moi je peux. Je
non,
vous
mais
raconte.
Racontez-nous.
Comment c'était la Turquie ?
Alors, la Turquie, je suis allé jusqu'à Roissy. Ça, on a réussi. Arrivé à Roissy, à deux minutes de monter dans le. D'enregistrer les bagages, je me suis dit, je vais quand même vérifier les passeports des enfants pour voir un petit peu. J'ouvre les passeports. Le premier, ma fille périmée depuis juin 2019.
Ouais.
Une je regarde le dessus du petit février 2019, on progresse. Alors, j'ai donné quand même. Alors, pour info, voilà, je l'ai quand même tenté. Là, ça allait bien. Elle m'a dit on est en quelle année, monsieur ? Je dis là, vous m'en posez une.
2013
Là, vous m'en. Bah, alors là, je sais pas, faites comme vous. Elle m'a dit là, les passeports sont périmés. On est rentré à la maison. Dans une déprime totale.
Vous me raconterez la suite demain parce que c'est assez
long. C'est long, ouais. En tout cas, je suis content d'être
série,
revenu.
En fait.
Voilà.
Enfin, les vacances n'ont pas été très réussies, Jean-Philippe.
Non, mais la rentrée s'annonce terrible, donc c'est sympa.
Alors, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué l'actualité cet été. Grâce à Europe 1, tentez de gagner un séjour pour deux personnes de deux nuits. Hein, vous, Jean-Philippe, qui n'êtes pas parti
oui,
en vacances.
Ça me dirait bien, moi.
Deux personnes de deux nuits.
Mais on est quatre, nous. Bon, on restera qu'une nuit. Alors, allez-y.
Deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, Relais Château, en formule petit déjeuner avec deux soins d'hydrothérapie par personne. Poursuivez l'été à l'île de la Lagune, l'unique boutique hôtel Thalasso Spa 5 étoiles des Pyrénées-Orientales. Un cœur de verdure bordé par la Méditerranée, montagne à l'horizon, soleil chaleureux.
Oh là là tout ce qui m'a manqué cet été.
Un lieu de villégiature qui préserve votre intimité où chaque endroit est pensé cocooning pour le confort et le plaisir des yeux. Plus d'infos sur www.hotel-île-lagune.com. Et parce que c'est la rentrée,
Qu'est-ce qui se passe?
Vous avez une trousse et un cartable.
Mais oui, c'est ça. Europe 1 offre aussi.
Ah oui, c'est ça.
Offre aussi aux deux participants un lot de deux cartables et de deux trousses Paul Fox.
Moi, je disais ça pour déconner,
pas vrai. Bah oui, mais Paul Fox.
Non, mais c'est bien, ben voilà.
Vous connaissez ces cartables Paul Fox, des cartables solides, légers, ergonomiques. Paul Fox, avec son côté réversible.
Comment ça? Un cartable réversible qui se met dans tous les sens.
Grâce à son velcro, un cartable de possibilités.
C'est un super concept, merci Paul Fox. Merci.
Plus de détails sur le site www.paul-fox.com. On va aller voir ces cartables.
Mais
par contre, j'ai pas compris, c'est un lot de deux cartables et de deux trousses, pas par personne. Oui. Ils ont pas deux cartables chacun.
Deux cartables chacun. Un devant. Non, mais c'est comme
le parachute. En plus, ils sont réversibles, donc ça fait quatre.
C'est comme le parachute, on met un derrière, un devant.
Ah, il y a deux cartables par personne, on me dit un rose et un bleu. On joue d'abord avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Stéphanie.
Stéphanie, vous êtes magasinière pharmaceutique dans l'Aisne, à Juvincourt et Damary.
Oui, c'est ça.
Et vous avez trois enfants, une fille et deux garçons, ils ont besoin de cartables?
Il n'y a que deux cartables, Paul Fox.
Oui, on attend ça d'ailleurs.
C'est vrai?
La rentrée, c'est dans une semaine et j'attends les cartables.
Ah bah voilà. Et vous avez un compagnon depuis 17 ans.
Pourquoi?
Oui.
Comment ça se fait que ça dure comme ça?
Et nous, ça ne dure jamais, nous.
Hein?
J'ai pas de secret. On est ensemble 24 heures sur 24.
En plus, vous êtes collègues de travail, vous.
Voilà, oui.
Magasinier pharmaceutique, ça veut dire quoi? Vous bougez des médicaments, vous déplacez des médicaments?
Non, en fait, je commande et je réceptionne les produits pour fabriquer des médicaments.
D'accord.
Ah, vous fabriquez des médocs?
Oui.
Pourquoi des médocs?
Des médicaments, pardon. Des médocs,
écoutez, c'est cool. La première émission, on essaye de s'exprimer correctement.
C'est vrai. Non, mais il n'a pas eu de vacances, lui, c'est pour ça.
Vous, ça s'est bien passé cet été, vos vacances, Stéphanie?
Bah, impeccable.
Ouais. Vous faites quoi la journée?
Impeccable.
Rien.
Bah, les balades, la piscine, on prend le soleil, tout va
bien. Et vous nous écoutez à 11h tous les jours?
Évidemment.
Stéphanie, vous jouez avec qui comme chroniqueur?
Oh, moi je le sens bien, Jean-Philippe.
Ah, vous le sentez bien, mais il a pas eu des très bonnes vacances.
Ouais, en ce moment, je pue la défaite, mais...
Liste 1 ou liste 2?
Liste 2.
Ah, attends, j'ai bossé la une.
Bah, ouais, oui, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Ah, c'est bon.
Attention,
ça
top chrono, 40 secondes.
C'est le président de la Russie. Président de la...
Poutine.
Ouais, c'est le ministre de l'écologie, l'ancien ministre de l'écologie, il a démissionné là.
Je passe.
C'est pas grave. Dans Les Visiteurs, c'était le grand avec Jacouille la Fripouille. L'autre, il s'appelle comment, l'acteur?
Jean Reno.
Ouais. Elle présentait le 20h avec, il y avait PPDA, puis il y avait aussi elle.
Claire Chazal.
Ouais. Lui, c'est l'ancien président de la République, il est avec Carla Bruni.
Sarkozy.
Ouais. Lui, il fait des films, il a fait Pulp Fiction, là, il est Once Upon a Time in Hollywood. Non, c'est le réalisateur, pardon. Le réalisateur de Pulp Fiction. L'ancien président avant Donald Trump.
Non, c'est pas mal du tout. Quatre bonnes réponses. Vous n'avez pas trouvé François de Rugy qui a démissionné cet été. Et Quentin Tarantino qui a sorti le film Once Upon a Time in Hollywood depuis le mois d'août 2019. C'est pas mal du tout, Stéphanie, quand même, hein, pour quelqu'un qui est en vacances. Quatre bonnes réponses. Peut-être qu'au pire, vous avez les cartables.
Oui,
c'est déjà bien.
Mais ça vous plairait bien de partir en tête à tête avec votre chérie de nuit à l'hôtel 5 étoiles à la sauce
quoi qu'un beau cartable.
En fait, en plus. Non, mais attention, le gagnant gagne aussi le cartable. Donc,
d'accord.
Donc de toute façon, vous êtes sûr.
En thalasso avec un cartable. Il va pas avoir.
Alors, on joue maintenant avec Eddy. Bonjour, Eddy.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous.
Bonjour, Eddy.
Vous avez une voix très grave. Eddy, vous avez 35 ans. Vous êtes employé de mairie. Vous habitez à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes.
À côté de Nice.
À côté de Nice, comme Laurent Barra.
Voilà, vous devinez avec qui je vais jouer maintenant.
Yes.
Vous êtes en couple depuis 15 ans. Vous avez une fille de 5 ans.
Oui, c'est ça.
Et là, qu'est-ce que vous avez fait cet été, alors, Eddy?
Alors, j'ai fait un truc qui est super, c'est le boulot.
On est travailleurs.
C'est-à-dire?
Voilà, bah, j'ai fait que bosser, hein, du coup. Donc, moi, les vacances commencent quand vous, c'est la rentrée.
D'accord. Donc là, vous avez joué avec Laurent Barra?
Exactement, avec un grand plaisir.
Mais, le plaisir partagé.
On sent que vous rigolez pas, Eddy. Hein.
On n'est pas là pour rigoler dans le Sud, nous, vous savez.
Et vous dites que vous ratez.
Je suis content, j'ai déjà gagné deux cartables. Alors,
Attention, Eddy. Hein,
Et vous dites que vous ratez aucune émission, c'est vrai?
Ah ouais, non. Au boulot, que ce soit en podcast ou en live.
Comment vous faites pour nous écouter à la mairie de Villeneuve-Loubet?
Entre la pause, entre 9h et 18h.
Non, même pas, parce qu'on travaille. Moi, j'ai un travail où je travaille beaucoup en solo, dehors, sur l'entretien des installations, etc. Donc, je mets mes petits écouteurs et puis je travaille en même temps.
Vous nous écoutez tous les jours.
D'être efficace, tous les jours.
Ah bah, ça nous fait plaisir.
Avec un grand plaisir.
Qui est votre chroniqueur préféré, à part moi, qui suis un symbole sexuel?
Il y a Laurent, lui, Orange, Jean-Philippe, et puis une personne qui n'est pas là, c'est Christine.
Ah, c'est
avec
ça.
Sa magnifique voix.
Dites-le si je dérange.
Donc là, vous êtes prêt à jouer avec Laurent Barra, des personnalités qui ont marqué cet été. Attention, top pronom.
Allez, Eddy, la femme de François Hollande, comédienne.
Julie Gayet.
Le footballeur argentin légendaire des années 80.
Diego Maradona.
Ouais, la comédienne qui parle comme ça, la blonde qui est à l'affiche du film Mamie.
Chantal Latsou.
Oui, la femme de d'Emmanuel Macron.
Brigitte Macron.
Oui, le footballeur du Paris Saint-Germain brésilien qui devrait être transféré Neymar. Normalement. Ouais, mon petit. celle qui jouait. Oh, bah maintenant on a gagné, tu sais.
Continue.
Oui, oui, bah oui, l'ancien présentateur de Fort Boyard.
Patrice Lafont.
Ouais. Il a écrit un bouquin. Il était chroniqueur chez Ruquier. Il a écrit un bouquin sur ses parents qui le battaient.
Yann Moix.
C'est pour moi.
C'est un perfect.
Petit Issa Nissa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. On peut vous applaudir. Bravo, Eddy.
Attends.
Magnifique.
Merci, merci, merci.
Bon,
Laurent.
Alors,
merci,
il a Laurent Jaccord parce que c'est le premier jour, mais on ne dit pas la femme d'Emmanuel Macron. On dit la femme du président de la République. Si vous donnez le nom de famille, c'est complètement.
Excusez-moi. Il y a un côté un peu. Moi,
il y a un côté proche des gens, proche du peuple, et voilà.
Non, mais proche de la tricherie, voilà.
Eddy, bravo.
Bon, Laurent, sur le coup, Laurent, je vous offre le cartable rose.
Ah non, mais il n'est jamais allé à l'école, lui, donc il sait
pour
pas
ma petite amie, ça lui fera plaisir.
Ah oui, c'est vrai qu'elle est très chouette. Mais...
vous voyez, je fais des pas décisives.
En tout cas, je suis venu le voir en spectacle cet été quand j'étais sur les plages du Rire.
Waouh.
Et bon, j'ai pas eu l'occasion de vous voir en vrai, mais j'espère qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir vous serrer une bonne main.
Avec plaisir.
Et vous dire un grand bravo pour ce que vous faites.
Il était bien son spectacle, peut-être, de verdure.
Bah ouais, franchement.
Maintenant que vous avez gagné, que vous pouvez dire la vérité.
Alors, répondez à la question.
Non, j'avais déjà dit avant. Hein, j'avais dit avant que je voulais jouer.
Merci.
Donc,
merci
et
beaucoup.
Bravo aussi à toute l'équipe parce que vous êtes vraiment sympa et vous nous régalez vraiment tous les jours.
Merci. C'est très gentil. Vous devez dire ce que vous avez gagné. Il dit que vous partez avec la personne de votre choix pour un séjour de 2 nuits à l'hôtel 5 étoiles Talos au Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, relais château en formule petit déjeuner avec 2 soins d'hydrothérapie par personne. Poursuivez l'été dans ce cœur de verdure bordé par la Méditerranée. Plus d'infos sur www.hôtel-île-lagune.com. Et parce que c'est la rentrée, Europe 1 vous offre un à tous les deux. Avec à Stéphanie également, 2 cartables et 2 trousses Paul Fox, un rose et un bleu. Paul Fox, des cartables solides, légers, ergonomiques. Paul Fox, avec son côté réversible grâce à son velcro, 1 cartable, 2 possibilités. Infos et descriptions sur www.paul-fox.com.
Eh ben.
Bravo, ah ben, bravo Eddy.
Je suis vraiment très très content, merci beaucoup.
Vous allez emmener votre femme en week-end là ?
Ah bah bien évidemment.
Stéphanie, pas trop déçue ?
Non, je félicite Eddy, il a très bien joué et félicitations. Et merci Europe 1.
Félicitations à vous aussi Stéphanie.
Stéphanie, vous avez quand même gagné 2 cartables.
Bah voilà.
Oui,
bon, vous avez 3 enfants, mais 2 cartables.
Il y en a 2 qui vont à l'école,
vous en déscolarisez un.
Non, mais le premier, il a 20 ans, il est plus scolarisé, donc c'est bon.
Stéphanie, comme vous êtes très sympathique et que c'est le premier jour, on vous autorise à rejouer avec nous d'ici un mois.
Eh ben, il n'y a pas de souci.
Bon, on vous embrasse tous les deux.
Je vous retrouverai ma chance dans un mois.
Ok, avec plaisir. Passez une excellente fin de vacances, on vous embrasse. Merci beaucoup. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Benaz, Jean-Philippe Bizini, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et notre invité jusqu'à midi, Daniel Herrero, pour son dictionnaire amoureux de l'Ovalie, paru le 14 août aux éditions Plon.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizini, Mickaël Quiroga, Ben H, Laurent Barra et notre invité avec ses longs cheveux grisonnants, son bandana rouge et sa barbe blanche. Il est le spécialiste de l'envolée lyrique, de la pédagogie imagée et de l'allégorie philosophique. C'est surtout un authentique amoureux de l'Ovalie qui prêche le rugby comme une religion. Le mythique Daniel Herrero est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Daniel Herrero.
Signorita, je vous salue avec affection et tendresse.
Vous êtes pas mal comme mec, hein ?
La réciproque, oui, madame.
Alors maintenant, on attaque direct.
Attendez. La réciproque, ça veut dire qu'elle est pas mal comme mec aussi ?
Je ne me serais pas permis cette investigation, mais de fait, je...
Faut enquêter.
Non, mais c'est vrai que je savais pas que vous avez vraiment des beaux yeux bleus, Daniel Herrero.
Vous êtes gentille, madame, c'est pas la partie la plus performante de ma constitution.
Ça va être mon émission préférée de toute l'année.
Alors en 2003, Daniel Herrero, vous avez publié le dictionnaire amoureux du rugby. Aujourd'hui, vous nous présentez une nouvelle édition entièrement revue, augmentée et remise à jour. Le dictionnaire amoureux de l'Ovalie. Vous préférez nommer le rugby Ovalie, pourquoi ?
On sent bien que s'il y a un autre mot, c'est qu'il y a, probablement quelques nuances, quelques différences. Ovalie serait un univers, serait peut-être même une morale. Enfin, ce serait, je ne sais guère, mais quelque chose qui ressemblerait plus à un esprit qu'à un simple jeu. Le rugby, c'est un jeu, c'est une pratique, c'est une aventure physique.
Vous dites que l'argent est arrivé dans le rugby et que ça a un peu changé les choses ?
Non, je ne dis pas ça, ou je le dis tardivement, ce n'est pas l'élément numéro un. L'Ovalie étant l'univers où se pratique le jeu de rugby par des hommes qui, ou par des humains, pardon, qui aujourd'hui ont sans aucun doute des traits de culture, des traits de moralité.
Mais quand vous êtes avec une femme, elle est obligée de regarder des matchs de rugby, tout ça ?
Ça vous intéresse, ça
hein.
Elle est en train de penser
non,
à son week-end, mais qui s'organise.
Non, parce que là, en fait, ce qu'elle voulait savoir, c'est si jamais... Bon,
non, pas du tout.
Si
non,
qu'elle aurait à faire le week-end.
Non, parce que, par exemple, non, mais tout le monde n'est pas intéressé par le rugby.
Ça se saurait, je dirais. De fait, non, tout le monde n'est pas intéressé par le rugby. Nous n'avons pas cette prétention. Mes compagnes ou mes compagnons peuvent avoir du goût pour...
Vos compagnons, vous êtes bisexuel ?
On ne peut rien dire.
En ce moment...
Tu lances une petite hypothèse, ouais. Ça, et de suite, tu vois.
Moi, c'est la première fois qu'on vous a posé
compagnon,
cette question.
Compagnon, c'est les collègues avec qui je roule, avec qui je marche, avec qui je vis, avec qui je...
Oui. Tu vois, voilà.
Pourquoi ça vous dérange, un plan à plusieurs, hein, c'est pas ça. Qui a dit ça ? C'est l'autre qui me souffle des conneries, moi, je
d'ailleurs, c'est vrai, non, alors justement, je sais pas que ça m'intéresse, mais... On parle souvent de la troisième mi-temps au rugby. Moi, on m'a toujours dit que les rugbyman, ils étaient un peu... Non.
La savonnette, tout ça.
Ouais.
Non, mais c'est vrai ou c'est un mythe, ça.
Une série de poncifs comme ça qui m'apparaissent un peu déplacés. Franchement, à l'entame, honnêtement, il est le jeu de rugby, quand il est masculin, il est pratiqué par des gens unisexes, tu vois. Et de sûr que la rudesse du monde, la fusion permanente, le solidaire de l'affrontement, tout ça génère des fusions corporelles qui peuvent amener quelques
équivoques
et quelques suspicions. En d'autres termes, quand t'es dans la douche, t'es pas obligé de balancer le savon par terre.
Voilà.
Tu prends du gel douche.
C'est
un mythe, cette histoire de troisième mi-temps, c'est vrai.
Par contre,
on m'a dit qu'il y avait des femmes, moi. On m'a dit que ça y allait, quoi.
Oui, alors la chute de ta réflexion est un peu équivoque.
On se tutoie,
j'ai pas d'autre hypothèse. Comme dirait Prévert que les humains. Enfin, donc je peux me permettre de te tutoyer avec affection et tendresse encore une fois. Enfin, de fait. mais l'idée de la troisième mi-temps.
On va coucher ensemble avec affection et tendresse.
Allez, non, ce qui est intéressant, de savoir sur la troisième mi-temps, c'est.
Alors, la troisième mi-temps.
Comme c'était un des trois ou quatre thèmes essentiels de l'aventure du rugby et de l'Ovalie. La troisième mi-temps, c'est après les deux premières qui sont rudes, qui sont codifiées, qui sont sportives, qui sont rationnelles, qui sont méthodiques, qui sont logiques, tu vois ça ? Hop, il y a la troisième, elle est essentielle. La troisième, c'est derrière les deux de rudesse, il en faut une de tendresse. Derrière les deux de sévérité, il en faut une de rencontre. Derrière les deux de méchanceté conflictuelle, il en faut une de pacification.
Deux fessées, troisième... une caresse.
Mais si tu veux libérer de la parole, ce qui est le sens fondamental de la troisième mi-temps, derrière les rudesses du monde, il va falloir sans doute qu'on convivialise un petit peu. Voilà. En d'autres termes, gorgeons, relations, affection et plus y affinité. La troisième mi-temps est un lieu qui va libérer, qui va permettre la libération de la parole en faisant en sorte que les humains qui y participent, tu vois, avec notamment les nanas qui peuvent participer aux deux premières ou toutes celles qui sont pas, qui peuvent être concernées par les deux premières. La troisième mi-temps, c'est pas uniquement inviter les collègues et se filer de la moutarde dans l'arrêt.
Ça m'a échappé.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec de nouvelles révélations très élégantes de Daniel Herrero. La moutarde dans l'arrêt, je ne connaissais pas cette expression. On en apprend tous les jours. La suite.
Anne, dites aux gens, la moutarde dans l'arrêt, ne le faites pas à la maison.
On se retrouve dans un instant avec Daniel Herrero qui vient nous parler de son livre Dictionnaire amoureux de l'Ovalie qui vient de sortir aux éditions Plon. Ne bougez pas, on revient.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, avec Jean-Philippe Bisigny, Mickaël Quiroga, Ben H, Laurent Barra et notre invité, l'incroyable Daniel Herrero, qui vient nous parler de son dictionnaire amoureux de l'Ovalie qui vient de sortir aux éditions
Plon. Et de la moutarde, de la cuisine, des recettes de Daniel Herrero.
Ce qu'on peut dire de vous, Daniel Herrero, c'est que vous ne pratiquez pas la langue de bois.
Ah non, bah surtout quand il y a de la moutarde. De la raie à la moutarde, peut-être.
Daniel Herrero, pourquoi vous avez ce bandeau rouge dans les cheveux ?
Il a fait Koh-Lanta, puis du coup...
C'est lui qui a gagné l'épreuve des piquets.
Je devais faire partie de la bande des rouges, effectivement.
Excusez-moi, mais depuis que je suis petit, je fais partie de la bande des rouges.
Ne dormez pas avec Daniel Herrero.
Anne, j'ai très honnêtement, j'ai cette délicatesse dans mes cheveux, je dirais, mon bande rouge depuis à peu près une quarantaine d'années. Ouais. Donc c'est pas un effet de style. De fait, je l'ai comme ça. C'est ce qui me va le mieux au cœur et au
corps. Tout le temps.
Dans ma chaumière, il peut m'arriver de l'enlever, mais dès que je sors et dès que j'affronte le monde ou dès que je me mets en confrontation avec le monde,
moi, je trouve que ça vous irait mieux bleu pour être assorti avec vos beaux yeux bleus.
Ça me paraît un peu méconnaître un peu ce que sont les traits identitaires de ma personnalité profonde. J'aime plutôt le rouge, j'aime plutôt le turbulent, j'aime plutôt l'identitaire sans équivoque, j'aime plutôt ce qui donne la commission quand on te voit que tu es pas un endormi, quoi, voilà.
J'ai l'impression que je suis dans un vestiaire, j'ai envie d'aller sur un terrain, casser la tête à tout le monde.
Moi j'adore parce que c'est le genre de gars qui peut t'expliquer qui va te péter la gueule, mais joliment. Tu vois, c'est ça.
Vous avez dit de vous, Denero, que vous aviez l'âme éducative et que vous étiez meilleur finalement entraîneur que joueur. Comme vous avez ce talent-là de savoir motiver les gens. Et même en entreprise, on vous engage souvent pour motiver les troupes.
Oui, alors c'est toujours un peu délicat. Ça, j'ai été trop longtemps joueur pour jeter l'anathème sur cette pratique, enfin sur ce bout de route conséquent de ma vie. Quoi. J'ai beaucoup aimé le terrain, le jeu, le lieu, la rencontre, le pétillant et l'effervescence de l'arène sportive. Quoi. J'ai beaucoup aimé ça.
Et la moutarde.
C'était pas non plus une très caractéristique du quotidien, tu vois. Mais le ballon, oui, par exemple. Le ballon, oui, le maillot, oui, la sueur du collègue aussi, quoi, la solidarité avec les autres aussi. Enfin bon. Et de fait, la partie entraîneur de ma vie a été assez conséquente. J'ai enchaîné très vite derrière.
Comment
longtemps.
On fait pour motiver une équipe? Moi, j'en ai besoin avec ces bandes de bras cassés.
Ouais, effectivement. Je me demande si la réciproque n'est pas vraie avec toi.
Comment ça?
Non, de fait, c'est quand même, c'est pas le sujet radicalement numéro un. Les citoyens qui viennent dans la voiture sportive jusqu'au haut niveau, ils ont franchi des étapes et ils ont un certain nombre d'attributs qui leur permettent de jouer au haut niveau. En l'occurrence, ils sont pas couillons, ils ont des aptitudes motrices, ils ont même des choses qui, dans leur cœur, peuvent ressembler à de la passion, à de l'enthousiasme, à la générosité. Alors après, la motivation, ça voudrait dire quoi, la motivation? La motivation, c'est quand ton moteur est en action, quand ça tourne dans ton ventre, que quand je te regarde, j'ai l'impression que dans tes yeux, ça pétille et que dans tes guiboles, ça va courir. Tu vois,
Parce que mes yeux pétillent, mais mes guiboles ne courent pas.
Pareil.
Toi aussi, t'es comme ça.
Moi, c'est pas la motivation qui manque, c'est clairement un corps.
Lui, c'est le corps.
D'accord. Alors, on y ajouterait, dans la motivation, il y a quelque chose qui fait que si dans ton cœur ça pétille, ça veut dire, grosso modo, que c'est titulaire d'un angle un peu chaleureux qu'on appellerait la passion, quoi. Voilà. Tu vois, si t'as pas ça, ça sera difficile de déclencher de la motivation. Il est très difficile de déclencher la motivation des citoyens qui sont en face de toi s'ils aiment pas ce qu'ils font. Voilà. Tu vois,
on fait pas d'un âne un cheval de course.
C'est pas certain.
Mais
les collègues qui sont avec toi, qui sont pas des chevaux de course olympiques, mais qui sont pas mal quand même, tu vois, si tous, ils valent 17 sur 20 et ils jouent tous les dimanches à 17 sur 20, chaque fois qu'ils sont dans l'émission avec toi, ils jouent à 17 sur 20, franchement, c'est fantastique pour toi comme pour eux. Et si de temps en temps, ta présence, tu vois, dans cette dynamique-là, parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils sont heureux de faire le métier qu'ils font, ils sont capables de jouer à 17,5, on les aime d'amour ad vita aeternam.
Venez tous les jours.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Daniel Herrero, venu parler de son dictionnaire amoureux de l'Ovalie qui vient de sortir aux éditions Plomb. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Mickaël Quiroga, Ben H, Laurent Barra et notre invité Daniel Herrero, venu nous parler de son dictionnaire amoureux de l'Ovalie aux éditions Plomb. Daniel Herrero, ce goût de la langue, il est venu quand?
Oh là là,
il
vous
est
cherchez venu... aussi, vous. Hein.
Non,
mais ouais, franchement.
Non, le goût des mots.
Du verbe.
Oui. C'est le goût des
ça
verbes.
Ça vient de la moutarde ou pas?
Non, mais c'est venu quand? C'est venu quand dans votre vie? C'est venu tout de suite ou c'est venu au fur et à mesure?
Très sincèrement, j'ai la sensation, moi qui suis fils d'immigré espagnol et qui l'ai eu un petit peu rude sans l'avoir dans la misère tôt dans ma vie, le goût des mots est tardif. J'ai plutôt traversé le champ du silence, y compris jusqu'à l'école, qui n'a pas été la main tendue qui libère le plus à la fois.
Maintenant, vous avez une véritable verve qui est reconnue. La vie, ce talent oratoire, après, ça vous sert, Daniel Herrero? Par exemple, vous faites la queue à la poste, à la boulangerie
Je ne sais pas si on peut dire le talent oratoire.
C'est quoi Daniel Herrero au supermarché, par exemple?
Ben, j'y vais, je fais comme tout le monde, je regarde la copine qui est devant, et puis après, tu vois, je regarde ce que j'ai devant moi. Mais non, mais en autre terme, c'est un lieu de vie ou de vitalité.
Vous avez votre bandeau rouge chez Carrefour?
Ben évidemment, j'ai ma bandeau rouge.
Non, mais c'est un mec normal, hein, c'est pas genre, il parle aux gens, il court après les pigeons. Hein. Non, tranquille, quoi.
Non, alors, par
non,
contre,
mais c'est l'iris que vous avez.
Ah, je ne sais pas, Anne. Ce que
vous
je
êtes
pense,
devant une caissière, vous lui dites.
Je lui dis bonjour. Et j'essaye de faire en sorte que chacun des propos ou chacun des mots que j'emploie ait un sens pour elle. Voilà, tu vois ça. Après, je m'aperçois aujourd'hui que les mots, les collègues qui sont ici autour de cette table et toi-même, qui en avaient quand même un goût assez prononcé, vous êtes bien rendu compte qu'en tant que tel, ils ont des forces, mais quand ils sont sans phrase, ils perdent du sens. Voilà. Mmh.
Ça donne quoi, Daniel Herrero, qui s'énerve?
Tu le trouves calme, là, depuis le début?
En fait, je suis extrêmement détendu, je vous avoue. Je trouve que le milieu est incroyablement affectueux et à partir de là, il libère de la parole simplement. Pas, hein.
Mais des fois, vous énervez, Daniel? Et ça vous fait perdre la parole quand vous énervez ou le contraire
Il met des coups de tête, c'est pour ça qu'il a le bandeau, c'est pour cacher les choses.
Je peux avoir du goût pour la colère, honnêtement, et dans l'aventure sportive, elle a été un élément déterminant. Tu vois, quand tu rentres dans
la rage de gagner.
Ou alors, on pourrait presque dire ça. Tu vois, le match dans quelconque aventure sportive d'un bon ou d'un haut niveau, il est quand même une confrontation, il est une opposition, il est une rudesse comme une évidence. Et la colère est souvent un assez bon guide, mais par nature, tout le monde le sait, qu'elle peut un peu aveugler, un peu inhiber, un peu réfréner et un peu t'amener à la bêtise, pour ne pas dire à la connerie. Il faut faire attention. Moi, je m'autorise.
La colère, oui, la violence, non.
Je dirais ça aussi en résumé, mais je m'autoriserai simplement 2 ou 3 colères par an aujourd'hui parce qu'elles sont salutaires.
C'était quand la dernière, Daniel Herrero?
Je pense que c'était tout à l'heure en arrivant quand le chauffeur de taxi. Enfin, bon, peu importe.
Si, allez-y, allez-y.
Non, si, aussi.
Il est décédé. C'est rien.
Parce qu'il m'a dit où j'allais. J'ai raconté que je venais vous voir. Il n'avait pas un regard tout à fait sympathique sur l'émission. J'étais obligé d'en dormir avec les pieds, un truc à l'ancienne. Bon, ça va.
Donc moi, s'il y a un mec qui m'énerve, vous allez le voir et vous l'endormez avec les pieds.
Ah, c'est une métaphore.
Hein, ah oui, mais ça m'intéresse, moi.
Non, il peut y avoir. Hein, ça fait quand même longtemps que je ne suis pas servi des attributs physiques pour impressionner le monde. Hein,
On sent que vous êtes capable de le faire. Quoi, ah,
bah, la culture qui a été la mienne, le champ de vie qui a été les miennes, ou qui ont été le mien, pardon, m'amène à penser que de temps en temps, il y a dans ta posture quelque chose qui ne doit pas être une imposture de pensée. Quoi. Quand je te vois, il faut que je sache ce que tu penses. Et si tu es en face de moi avec des choses à me dire, il faut que tu me les dises. Voilà, pas plus, pas moins. Et si ça génère à un moment de l'irritation, il faut que tu le comprennes. Voilà.
Vous avez compris? Fermez-la maintenant, les trois. Là.
Enfin, quand quelqu'un comme vous parle, quelqu'un comme moi se tait. Enfin, il y a une sorte de règle de vie comme ça.
Si c'est lié au poids, ça m'énerverait. Si c'est lié,
c'est lié au poids.
Non, vous avez beaucoup de stature, Daniel
Herrero. Quand t'as un citoyen qui fait 60 kilos et que t'as à côté Teddy Riner, le mec, en général, il se tait, le mec de 60 kilos. C'est une hypothèse stupide qui fait que de temps en temps, la posture impose, tu vois, des dominations, quoi. Non, moi, non. Ma conviction, c'est dans ce que tu dis, dans ce que tu me montres, il y a respect.
Celui qui connaît pas l'émission, il dit putain, il a pris du LSD, le Père Noël, ou quoi?
En espérant qu'ils disent que je ne suis pas une ordure. Quoi.
Daniel Herrero, je vous présente Jean-Philippe Bizini qui a essayé de jouer au rugby.
Oui. C'est pour faire plaisir à ma femme parce que j'ai découvert qu'elle était passionnée de rugby. On est allé voir un match et elle connaissait le nom de tous les joueurs. Ah, elle m'a dit, celui-là, c'est le mois de juillet, celui-là, c'est septembre, là, il y a janvier, j'ai pas pu le reconnaître parce que là, avec son short et son maillot, d'habitude, il est tout nu avec le ballon devant l'arrosoir, elle m'a dit. C'est là que j'ai compris que ma femme était plus intéressée par le calendrier des joueurs que par le sport en lui-même. D'ailleurs, quand elle a compris que pendant les mêlées, les joueurs, ils s'entassaient tous les uns sur les autres au-dessus du ballon, ma femme, ni une ni deux, elle s'est déguisée en ballon. Elle est rentrée sur le terrain. Oh là, les joueurs, ils ont tous sauté dessus. Ils me l'ont rendu dans un état. Il lui restait plus qu'une seule dent. Et encore, elle était en travers. C'est pour vous dire, cet été, on est parti à la montagne. On s'est baladé. On a vu des castors qui faisaient un barrage. Quand les castors ont vu ma femme, ils l'ont appelée maman.
Et sa femme est ravissante.
Ouais, mais vous l'avez pas vue depuis qu'elle est partie sous la mêlée. Alors, du coup, pour faire plaisir à ma femme, je me suis inscrit au rugby. Ah, y a un truc que j'aime pas trop, c'est qu'à la fin du match, on prend notre douche tous ensemble. Et ben, je suis un peu complexé parce que les mecs sont tous baraqués avec des tatouages partout. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire des clichés sur les rugbymen, comme quoi ils sont un peu bourrins et tout ça. Pas du tout, il y a des poètes. Il y en a un dans l'équipe, il s'est tatoué tout un poème de Verlaine sur le zizi. J'ai voulu faire pareil, mais moi j'avais juste la place pour marquer coucou.
C'est pas un poème de Verlaine, coucou?
Si, j'avais pas la place pour mettre plus.
Coucou, oui, mais...
Oui. ensuite, après ça, après la douche et la troisième mi-temps, hein, Daniel Herrero, vous expliquez dans votre livre que la bière et le rugby sont indissociables. Moi, ils m'ont tellement fait boire qu'en rentrant chez moi, je me suis fait arrêter par les flics, ils m'ont fait souffler dans le ballon, je me suis envolé avec. Tout ça pour dire que le rugby, c'est pas un sport, c'est une philosophie, une façon de voir la vie. Et grâce à vous, Daniel Herrero, on tombe forcément amoureux de l'Ovalie.
Merci, voilà, voilà.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Daniel Herrero, venu nous parler de son dernier livre, Dictionnaire amoureux de l'Ovalie, qui vient de sortir aux éditions Plomb.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, avec Jean-Philippe Bizzini, Mickaël Quiroga, Ben H, Laurent Barra et notre invité Daniel Herrero qui vient nous parler de son dictionnaire amoureux de l'Ovalie qui vient de sortir aux éditions Plomb. Daniel Herrero, on parle de plus en plus du rugby féminin. Vous pensez que ça va se développer comme le football féminin ou pas ?
Oh, sans aucun doute, oui. Mais par contre, ça a été long. Le rugby n'a pas toujours été très glorieux dans sa relation avec le monde féminin. Il faut savoir que longtemps, la structure qui dirigeait le rugby français, qui s'appelle la Fédération, quoi, elle a jeté l'anathème sur la présence féminine dans l'aventure. Quoi. Et c'est 68 qui avait un peu impulsé. Dans les années 70-80, ça a un peu germé.
Moi,
les...
par exemple, je pourrais jouer au rugby ?
Absolu. Si tu as une garde prétorienne avec toi. Mais si...
C'est quoi une garde prétorienne ?
Mais c'est les 3 ou 4 qui sont à côté de toi et qui disent si on regarde Anne dans les yeux, nous, on va sévir. Enfin, tu vois, ça veut dire...
Et je pourrais jouer à quel poste, moi, par exemple ?
Arbitre.
Franchement, non, pas clair. Non, non, je dirais pas ça. Non, y a
troisième mi-temps.
Il y a un poste en rugby qui, évidemment, que j'aime d'amour et que tout le monde aime d'amour, mais c'est le poste d'arrière. C'est le dernier. C'est celui qui est là-bas au loin. Il semble être celui de la surveillance. Il semble être celui de la coordination. Et en même temps, tu vois, parce qu'il est loin derrière, il n'est pas directement confronté à la sévérité de l'adversaire. Il est la réserve de panache.
Qu'est-ce qui vous donne envie d'entrer dans la mêlée ?
Ah, de fait, c'est qui s'y passe, quoi. C'est qui s'y passe. Un, parce que c'est qui s'y passe, la question, la façon dont tu poses la question semble être une énigme. La mêlée, de fait, c'est une énigme. La mêlée, c'est un univers et d'une grande complexité. C'est sur un tout petit périmètre, beaucoup de gens qui se tiennent. Et, tu vois, la mêlée, c'est d'un groupe de gens qui sont les uns à côté des autres, de faire une résultante efficace, performante. Mais pour qu'on soit efficace et performant quand on se tient dans un tout petit périmètre, tu comprends bien qu'il ne faut pas simplement avoir une biomécanique performante. Quoi. C'est pas avec une flexion, extension et le dos plat. Il faut aussi que je t'apprécie, il faut aussi que je te ressente, il faut aussi que nous soyons synchrones, que nous soyons harmonieux et peut-être même qu'on
s'évoque. C'est un gros câlin.
Peut-être.
Mais on peut pas.
Je jetterai pas l'anathème sur l'idée, bien que le mot câlin, oh, il nous amène vers une équivoque, mais je jetterai pas l'anathème.
Mais
non,
peut
les
pas,
gens
peut
qui
pas.
S'aiment bien poussent fort, voilà.
Mais.
alors attendez.
Je vais dire ça à ma femme ce soir.
Mais Daniel Herrero.
Vous savez qu'il y a des boîtes spécialisées pour
non,
ça.
Non, mais Daniel Herrero, on ne peut pas aimer tout le monde dans
Absolument.
Une équipe. Comment on fait alors justement ? Parce qu'il y a combien de personnes dans une équipe de rugby ?
Dans une équipe de rugby, donc c'est 15. Hein. 15
on ne peut pas aimer 14 personnes, il y a des affinités.
Ça me paraît un chiffre minimum, ouais. Ça me paraît un chiffre
Alors
minimum.
Comment on fait quand ça on aime paraît, moins
ça
quelqu'un
ça me paraît être un humain simplement en voie de construction que d'aimer moins de 15 personnes, hein, je te le dis tout de suite.
Ouais, quand même.
En voie de construction, tu n'aimes même pas 15 personnes sur cette terre, citoyen, ça me paraît très équivoque.
Donc c'est pas bien de ne pas aimer 15 personnes ?
Alors, non... Ce qui serait,
on ne peut pas avoir des affinités. Vous savez bien, quand on rencontre des gens, il y a des gens, ça passe pas. Le
oui, alors.
Nous, on est 4 déjà, il y en a 2 qu'elle aime pas. Hein.
non, mais de fait, c'est la bonne question.
Et c'est jamais les mêmes, alors, en plus. Alors, hein.
Non, mais je te dirais que, tu vois, le terrain de rugby est très original parce que c'est le seul terrain au monde où il y a 15 joueurs contre 15 joueurs. Il n'y a pas une autre pratique au monde où il y a ce chiffre-là. Il n'y a pas une pratique où il y a 18, 20 ou 22 mecs. Donc, c'est le chiffre le plus haut. Estimant sans doute que jusque-là, ça peut encore faire l'affaire. Jusque-là, chacun d'entre nous peut être ouvert à l'autre, réceptif à l'autre, à l'écoute de l'autre, dans le sens de l'autre. Maintenant, on saura que cette intensité relationnelle qui est quasiment une obligation pour que la performance soit haute et pour que le niveau de talent germe, pour que le mec qui vaut 12, il joue à 12, il est indispensable qu'il n'y ait pas d'inhibition, de fracture, de fissure, de frelaté, de radinerie, de bouderie.
Comment on fait alors pour...
Ben là, comment on fait ? On se dit que dans l'espace du match...
Tu vois, celui-là,
dans le temps du match, dans le chronos du match, tu vois, là, écoute, là, on ne discute plus. Ne te retourne pas, on y est tous.
Maintenant, oui. Alors, ça fait un peu penser à un film bizarre. Hein.
Moi, pour moi,
là, il y a un équivoque.
Pour moi, il y a un corps équivoque. Non, mais tu sais que le jeu de rugby, c'est le seul jeu du monde où, quand tu as le ballon, tu cours en avançant et tu passes la balle en arrière. Ça, tu ne peux pas l'ignorer. C'est quand même une règle étrange. Bon, c'est une règle d'anglais, donc elle est un peu stupide, elle est un peu bizarre, elle est même un peu couille. Simplement. non, mais tu cours en avançant et tu passes la balle en arrière. C'est étrange. Et le numéro 2, ben, il court en avançant, il passe la balle en arrière. Donc tout ça est un peu bizarre. Avec une idée, c'est qu'on les a tous mis derrière, les citoyens ou les citoyennes qui viennent avec toi dans l'aventure, pour que tu
saches que tu n'as rien à craindre, ni de peu, ni de prou, ni de rien. Voilà. Que tu ne sois jamais altéré par le moindre mécanisme de peur et que ton talent y germe. Voilà. On s'est mis derrière le mot soutien, je suis dessous, je te tiens. Avance, belle dame. Nous, on est là, t'occupe de rien.
Il y a la Coupe du Monde de rugby à 15 qui est du 20 septembre au 2 novembre 2019 au Japon. Vous allez y aller ?
Sans aucun doute. Les Coupes du Monde de rugby sont des grands forums que nous, Jean Dovali, nous aimons beaucoup. C'est la grande confrontation de tous les talents.
Alors pour les Français, ça va être difficile, on va avoir se lever tôt, c'est ça ? Parce que j'ai vu que les matchs étaient à 7 heures de décalage horaire avec le Japon.
C'est que le Japon est loin, les matchs seront diffusés évidemment en direct, mais on ne le saura que dans la matinée et ça sera sans aucun doute difficile. Mais la Coupe du Monde reste à la fois un bel événement social.
Les Français ont leur chance, Daniel Herrero, à la Coupe du Monde ?
Ils ont quelques chances de mériter de la considération.
C'est-à-dire que, grosso modo, si les Argentins, les Néo-Zélandais, les Anglais et tous les autres viennent pas, on peut gagner.
Et on est tombé dans une mauvaise poule, madame. Tu vois, il faut faire
une mauvaise poule.
On dit ça. Les Anglais disent poule. Et ce mot poule, tu vois, qui veut dire groupe, quoi. Nous, il a été traduit par poule. On ne sait pas bien pourquoi, mais la France est dans la poule 1. Et dans la poule 1, il y a trois grandes nations, les Français, les Anglais et les Argentins. Il n'y aura que des qualifiés. Et là, tout le monde, en ce moment, à Novali, est en train de mettre des cierges.
Ça fout les boules, n'empêche, parce que notre problème, c'est le coq. On joue dans une poule. Enfin,
Avant de se quitter.
On aimerait que le coq s'insurgissant, tu vois.
Avant de se quitter, Daniel Herrero, vous nous faites un chant de rugby ?
Alors, les chants de rugby, tu sais, il y en a plusieurs. Dans tous les. Le 15 de France, on chante à la Marseillaise, qui est notre hymne national, il n'est pas identitaire. Les Gallois, par exemple, les Anglais, sans aucun doute, les Écossais, beaucoup, ont des chants très identitaires. Les Écossais ont Flower of Scotland, qui est un chant sublime. Les Gallois ont Land of My Fuzz, la terre de mes papiers, qui est un chant sublime. Nous, en rugby, on aimerait avoir, ou je me permets, tu vois, mais je t'en dis juste un refrain, hein, je me permets, avec un vieux chant qui. Tu sais, le rugby est très installé dans les terres du Sud, il est très mariné, buriné par l'âme du Sud, de fait, dans cette terre de France. Et on aimerait. On a ce chant que l'on chante quasiment qu'entre nous, mais qui s'appelle le Sécante. Le Sécante, c'est un chant des troubadours du 13e siècle. Ça donne Sécanto, que canto, canto pasperio, canto per mamio, que saluendeu.
La main sur le cœur.
Merci Daniel Herrero d'être passé nous voir. C'est agréable de recevoir quelqu'un d'aussi passionné que vous. On rappelle votre dictionnaire amoureux de l'Ovalie qui vient de sortir aux éditions Plomb. Merci à vous.
C'est Nita Compagnero, merci beaucoup. Merci de votre accueil.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.